À partir du principe général de la Torah, que la créature doit se justifier devant le créateur, que toutes les mesures en découlent de façon mathématique, si je veux dire. Donc si quelqu'un avait vraiment intégré ce principe, qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est la Torah de la créature devant le créateur, il devrait par lui-même savoir quel est le jugement d'amour. Nous ne sommes pas du tout capables d'une telle capacité de sagesse. Mais la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui étaient censés en être capables. Vous comprenez ça? Je veux dire une fois ce que le grand Devina a enseigné à ce sujet. Devina a enseigné toute la Torah Shabbat fait, toute la tradition, elle est déjà impliquée dans la vie, dans le Tanakh. Quand je vous dis ça, tout le Tanakh est impliqué dans le Chumash. Tout le Chumash est impliqué dans le premier livre du Chumash. Tout le premier livre dans la première paracha. Toute la première paracha dans le premier verset. Et tout le premier verset dans la première lettre. Celui qui comprend que ça veut dire bête, peut reconstituer ce peuple. Il va être capable de l'homme, de l'homme. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en d'autres termes. Si je comprends que ça veut dire B, c'est-à-dire deux. Qui sont ces deux-là? Avant ce B, il y en a un seul. Vous voyez que peut-être la Torah commence par B et pas par là. Ça veut dire que Dieu a créé un monde, et à partir de ce moment-là, il y a deux êtres, Dieu et le monde. Et donc, bête, c'est, je veux dire, un terme philosophique pour vous montrer à quel point le langue est très profond dans le problème, c'est la relation d'altérité. Altérité, ça veut dire on est deux. Okay? Toute la Torah, c'est cette Torah qui commence par bête. Alors si je comprends vraiment que c'est bête, okay, alors je connais toute la Torah. Mais il faut être à un niveau de capacité de connaissance que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas le mérite d'être. Alors on fait cadeau, c'est vraiment de mieux aussi. Vous avez compris l'idée? Et compris. De manière polaire. C'est pas qu'il faut se laisser arrêter et se dire, bon, il nous a donné la Torah. Et si vous avez donné la Torah et pas fait entrer en Israël, Israël, alors aussi. On dit, oh, non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que même ça, c'est lui qui le fait pour nous amener. Vous comprenez le. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans l'approfondissement de ces choses, je dirais qu'il y a une sorte de lien d'identité entre la Torah et Israël. La Torah, c'est la Torah d'Israël. Israël, c'est Israël, la Torah. Et pendant une certaine période, Israël, par lui-même, est censé être capable de réinventer cette Torah qu'on va lui donner. D'une autre manière, la Torah n'est donnée qu'à celui qui est capable par lui-même de la comprendre par lui-même. Parce que sinon, il ne peut pas la reconnaître. Donc, en principe, a priori, nous devons être capables, arrivés au Sinaï, et Dieu nous a dit, bon, c'est vous, de savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. En plus, on vous a donné les livres. Vous avez écrit premièrement, vous avez demandé. Par exemple, l'idée est claire. J'ai à vous les donner. Non? Ça va? Au fond, c'est ça, le secret de l'âme d'Israël. C'est une Neshama qui est capable d'inventer ce que Dieu veut, de réinventer ce que Dieu veut. Alors, c'est l'âme d'Israël. Hein? Par exemple, oui, à ce niveau-là, c'est clair, à ce niveau-là, c'est clair. C'est aussi la même chose que le mystère de l'amour. Et ça, vous comprenez tout ça. Qui on choisit? On choisit ce qui est fait pour celui qui est fait à choisir. C'est quoi? Tu as passé ces tests-là? les évacuer. Et nous, en particulier, on décèle, en particulier, je ne dis pas toutes les raisons, on décèle le genre de métier auquel on est naturellement porté. Et alors, ça dépend des niveaux. Ça peut être assassin, boucher, chirurgien, c'est finalement le même métier, mais sublimé. Je veux dire, bon, j'ai d'ailleurs, c'est pas le même métier, mais c'est une tendance au métier. Une tendance d'ailleurs au choix du mariage et une tendance au genre de maladie mentale. C'est bien ça. Et la quatrième, c'était quoi? C'est ce qu'il appelle peut-être du destin.
Oui.
Une théorie. Quelle fac? De psychologie. Mais je ne savais pas que c'était rentré dans les mœurs.
C'est
rentré dans les mœurs. Bien. Et alors. Ah oui, et le genre de mort qu'on se choisit. La mort, le métier, la femme et la maladie mentale. La mère, d'ailleurs, le mari. Il y a la fin de la famille de procès. Tout un jeu de photographie. De types divers et variés. Et puis on demande à faire des choix, des photos qui sont les plus plaisantes et les moins qui plaisent. Ensuite on étudie ces choix, mais il faut se méfier parce que c'est très artificiel. On va faire ça des centaines de fois jusqu'à arriver.
Et il n'y a pas de
femme. Et il n'y a pas de femme, bien sûr. Et alors on arrive à décider des enfants. Tom. Ah oui, pour le pompier. Bien. Mais là, c'est très intéressant d'étudier pourquoi quelqu'un a choisi tel ou tel métier. On n'y arrive pas toujours à le comprendre. Et quand on ne le comprend pas, c'est possible, c'est-à-dire c'est une vraie réflexion. Et parfois, il y a des raisons pour lesquelles on se choisit un métier. Et si je me souviens bien, il y avait toute une série comme ça. Coiffeur, professeur, des gens qui parlent beaucoup. Le fait que j'ai pas ça, à cause de mon cours, elle va dire au début de l'Israël. que Dieu a passé au-dessus des maisons de nos pères en Égypte. Chénébar, ainsi que dit notre verset, Zébar, Pessah ou Hachem, c'est un sacrifice de Pessah pour Dieu, Hachem passe à Rabat et Ben Israël, Ben Israël. Il a passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël à l'Égypte, mais donc pour Israël, lorsqu'il a frappé l'Égypte, et il a battu nos cibles, et qu'il a sauvé nos maisons, et le peuple s'est incliné et prospère. C'est-à-dire que le peuple a accepté la commémoration de Pessah de génération en génération, jusqu'au Pessah de la Harité, jusqu'au Pessah de la fin des temps, qui commémorera, lui, la dernière grande vie. Voilà pour le Pessah. Donc cette Mishnah rappelle, de façon très précise, le souvenir du Pessah que l'on mangeait au temps où le temple existait, et il y a simplement un zéhé, un souvenir sur le cèdre. Deuxièmement, la Mishnah concernant la matzah, cette matzah, chez Anouakim, que nous mangeons, Ashulma, c'est en vue de quoi? Réponse, Ashul, en vue, chez l'Orispik, et Tsekam, chez la Rodinou, les Armites, que la pâte préparée par nos pères n'a pas eu le temps de fermenter, Ashimza Alehem, jusqu'à ce que ce soit dévoilé à eux, Melech Malka Melachim Akadoshbor, celui qui est le roi des rois des rois, le saint et l'initiatif. Bon, je vais quand même rencontrer, tant que possible, ils ne sont pas là, pour vous expliquer en détail cette expression. Une expression importante pour vous comprendre. Le roi, le roi, le roi, Akadoshbor. Et ce n'est pas du piano, c'est un sens très précis. Alors, je vais vous expliquer. Quelqu'un peut me trouver de la crêpe, peut-être? Okay. Alors, je vais mettre comme ça. Et ma crêpe. Mais ma crêpe. Après l'autre. Donc, vous, ensuite, je vais mettre ça. Voilà. Les Mélachim, les rois, c'est les rois des nations. Chaque nation a son roi. Peu importe si c'est un roi, vraiment un monarque, ou un chef de gouvernement, ou dictateur, président, enfin, c'est les chefs des peuples sur terre, hein, les Mélachim. Chaque peuple, et donc chaque dynastie, lorsqu'il s'agit de roi, a un tsar qui la dirige. Voilà. C'est-à-dire le prince céleste qui représente cette forme de la créature devant le tribunal céleste. C'est-à-dire qui représente les intérêts de tel peuple, de telle histoire, de telle société. C'est-à-dire toutes les sociétés humaines se récapitulent en fin de compte à 70 nations de base, vous rappelez, qui sont représentées par un tsar dans le tribunal céleste. Nous avons déjà parlé de cela. Alors ça, c'est les Malchei Amlachim, les rois des rois. Et le Melech, Malchei Amlachim, c'est Dieu lui-même. Alors, la différence entre Israël et les autres nations, c'est que les autres nations, toutes les nations, sont dirigées par le Dieu unique, mais à travers leur Sarim. Alors qu'Israël n'a pas de Sar. C'est directement. Et vous voyez ce qui manque au monde lorsque Israël est en exil. C'est la Hashgacha, la Shrina directe et cachée. Habituez-vous bien avec cette idée, à cette idée, bien que je sache que je ne peux pas encore l'expérimenter, c'est qu'il y a eu finalement un très long temps, 2000 ans, auquel nous nous sommes habitués, et c'est une situation du monde où la Shrina n'est pas dévoilée. Alors, on s'est habitué tellement que tout se passe comme si, dans l'expérience immédiate, le monde a toujours été comme ça. Mais je peux vous donner un indice par lequel vous rendez compte de cela dans l'expérience. C'est donc c'est familier à l'étude de la Bible. Le monde tel qu'en parle la Bible, c'est pas exactement le même que le nôtre de l'Église. C'est un monde avec révélation. Comprenez bien cette idée, ce principe. Okay. C'est-à-dire, c'est le même, mais c'est pas le même. La manière dont les personnages agissent dans le récit public, dans le monde apparaît dans le récit public, et bien, regarde autrement, dit, mais est-ce que c'est du même monde ou pas? Vous voyez que oui, il y a 2000 ans, c'est produit quelque chose. L'arrêt de la révélation est corollaire de la dispersion du feu. Alors oui, ce confirme cette expression. Mère, malgré, amère. Après, je vous expliquerai à quel de l'autre. Mais avant cela, malgré tout, je vais corriger quelque chose chaque fois que je suis dans l'histoire, pas souvent, mais peut-être dans l'histoire. Non, je ne sais pas. Enfin, j'espère être encore une fois dans une année. J'ai dit une fois dans l'histoire.
Oui.
Quand vous chantez le Charlemagne, faites une faute. Vous dites.
Il faut la corriger.
Ça y est, vous avez corrigé. Alors, maintenant, comment il faut dire? Il faut dire ça. Alors, vous disiez Malachim. Malachim, c'est les anges. Melachim, c'est les rois. Troisième point. C'est Shalom Aleichem, Malachim Shavet, Malachim Elyon, Imelech, Malachim Hamelachim, et pas Malachim. Malachim, c'est les anges, ça s'écrit comme ça, avec un aveugle. Malachim, Malach. Quel est un mot qui ressemble à Malach? Non, Malchut, c'est celui-là. C'est Melech. Malach, mais. Mais. Melach, la hête. Melach, c'est. Un malach, c'est quelqu'un qui est chargé de mission, d'une melacha. C'est clair? Malach, c'est le masculin de melacha.
Je crois
qu'il y a une différence entre
Melachim et
Malachim. Et Malachim. Voilà, je le dis. Melachim, c'est les rois terrestres, les chefs de gouvernement. Malachim, Malachim, c'est les rois célestes. Voilà, ça je vous explique. Mais on a étudié ça depuis des années. Bon, je reviens là-dessus. Bon, c'est clair ça. Malachim, les anges. C'est-à-dire, un malach, c'est comme un chaliach. C'est quelqu'un qui est chargé d'une mission. Il a une melacha à accomplir. Bon, je vais faire un petit schéma pour vous montrer que vous compreniez cela. Voilà. Ici, je situe la multiplicité des nations. Le chiffre symbolique de la multiplicité des nations, c'est-à-dire des différentes manières d'être homme. Et à la limite, si vous comprenez bien, chaque individu est une entité pour lui-même, un génie pour lui-même, une manière d'être créature. C'est clair ? Mais ça se récapitule au niveau de groupe humain, les nations. Alors, le chiffre symbolique, c'est 70. Ça, nous avons appris déjà dans le régime. En réalité, il y a des milliers, des dizaines de milliers de nations différentes, qui sont des combinaisons plus ou moins précises de ces 70 nations de base. Alors toutes les nations du monde, quelles qu'elles soient, se récapitulent au niveau des 70 nations de base dont elles sont les combinaisons. Clair ? Bon. Alors ça, chacune de ces nations a un melech, des melachim à ce niveau-là. Okay ? Et puis là, il y a des sous-melachim, peu importe. Donc, eh bien, le Dieu unique est relié à chacune de ces nations à travers la manière d'être précise de l'homme que représente chaque manière d'être homme dans chaque nation. Et par conséquent, entre ce Dieu unique et ces nations, il y a, si vous voulez, un prisme, un diaphragme. Okay. Ce sar et l'ensemble des sarim, c'est ce qu'on appelle le tribunal céleste. Okay. Ce sar, c'est Dieu lui-même, mais d'une certaine manière, sa volonté est limitée à la manière d'être, de telle manière d'être créature. Alors, prenez ça comme langage symbolique, c'est plus que symbolique. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à telle manière d'être homme à travers cette manière d'être Dieu. Alors, c'est ce que eux adorent quand ils adorent leur Dieu. En réalité, c'est Dieu lui-même, mais rapetissé à tel diaphragme de relation avec le Dieu unique et cette manière d'être la
créature.
Attends, laissez-moi finir. Je ne sais pas quand tu penses, mais laissez-moi finir d'abord. Ça, c'est par rapport aux hommes. Et par exemple, par rapport au phénomène de la nature, eh bien, la volonté du Dieu unique correspond à tel phénomène de la nature à travers telle loi de la nature bien précise. C'est le Dieu unique qui se dévoile en tant que telle ou telle volonté pour tel ou tel phénomène. Et c'est à ce niveau-là qu'est le mot Elohim, au pluriel, les Elohim. Et c'est lui qui est ces Elohim, mais pas l'inverse. Je ne veux pas dire que ce Elohim, c'est lui. Lui, c'est ça aussi. Je ne veux pas dire que ça, c'est lui. Sauf le cas particulier d'Israël qui n'a pas d'intermédiaire.
Et les Arabes.
Hein ?
Et les Arabes.
Non, les Arabes.
Si, si. En
Égypte. Si, si. C'est le même que celui des Aïlés. Je ne dis pas, je ne dis pas seulement que nous avons l'air de dire aucun nom, sauf un cas particulier. On n'a pas le droit de prononcer ces noms-là. Bon. J'essaie de vous expliquer cela. Ça veut dire que, dans ce sens-là, entre le Dieu unique et les choses, les êtres, toutes les créatures, quelques manières d'être, il y a toute une infinité de hiérarchies qui, dans ce sens-là, sont des dévoilements de la volonté du Dieu unique à des niveaux de plus en plus restreints. Et en fin de compte, chacun a son malheur. D'ailleurs, deux, un d'un côté, un de droite, un de gauche. J'avais un ami qui passe toujours à mon état. Il était très vieux. Il est toujours d'ailleurs. Il m'a fait perdre de vue. C'était même mon chef de scout du mouvement. Il était tellement pieux que chaque fois qu'il allait au cinéma, il prenait trois places. Et on ne savait jamais pourquoi. Alors un jour, il nous a dit, après il a pris la vraie raison, un jour, il nous a dit, tu comprends, j'ai deux anges avec moi, je ne peux pas toucher l'état. Il prend trois places. J'avais peur d'être assis avec une femme. J'avais envie de donner un conseil. Prends une place d'homme, tu gagnes une place. Mais dis donc, il y a un corps en terre aussi jamais. Bien. Ça veut dire que, dans ce sens-là, du Dieu unique à la multiplicité des êtres, il y a toutes ces hiérarchies. Je vous donne un lieu. Par exemple, vous avez entendu parler de l'ange Raphaël. Qu'est-ce que ça veut dire Raphaël ? C'est Dieu guérisseur. C'est-à-dire lorsque la volonté du Dieu unique concerne le problème de la guérison, alors c'est la volonté du Dieu unique qui prend le nom de Raphaël. C'est Dieu guérisseur. Dieu s'occupant des problèmes de guérison. Alors ces hiérarchies-là étaient dévoilées d'une manière ou d'une autre pendant le temps de la révélation. C'est pourquoi en ce temps-là, les hommes savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient. Depuis le temps de l'esprit, depuis que la chaîne n'est pas révélé, tout ça c'est caché, invisible. Comme vous l'avez dans les textes, on en parle par l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais c'est invisible. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? C'était le fait d'adresser un culte à ces hiérarchies intermédiaires, dans le fond de l'inconscient. Cet idolâtre se met devant son idole et qui a l'homme. Qu'est-ce qu'il veut en réalité s'il savait que c'est le Dieu unique ou que c'est le réel ? Mais il s'est mis devant un écran.
Justement, révélation réduite, adoration réduite.
Pardon ?
Alors,
c'est pour ça qu'il y a une différence de nature entre l'adoration des idolâtres et l'adoration du monothéisme. Il n'y a pas de diaphragme, on est devant le Dieu unique sans la famille.
Mais l'injustice
tellement énorme. Non, c'est pas une injustice, tu n'as pas subi tout ce qui s'est passé près d'avant les choses. C'est ce que chaque lignée humaine a fait d'elle-même. Et vous rappelez de cela, à l'échelle collective, de l'identité collective, de chaque manière d'être homme, tout ça se décide à disparaître. Quand l'universalisme sera construit à l'échelle individuelle, chacun peut prendre, rejoindre l'élan central qui est représenté par l'exemple. De nouveau, en tout cas, à l'échelle individuelle, n'importe quel de ces idolâtres peut quitter l'impasse où il se trouve et rentrer dans Israël. Et c'est ce qu'on appelle les Hasidim Mutarola. Bien qu'ils fassent partie d'une entité dont le Tsar est tel Tsar, eux, à l'échelle individuelle, ils sont attachés de tout ça. Bon. Et alors, il y a une discussion dans la Gemara. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Dans la Gemara Chabad. S'il y a un mazal pour Israël, il n'y a pas de mazal pour Israël. Vous connaissez cette phrase ? Et le mazal d'Israël, et le mazal d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le mazal ? Alors, on aurait dû le traduire la chance. Le mazal n'a plus le sens de la chance que dans les juifs. Et ça ne veut pas dire la chance. La chance, c'est un mot grec. La chance, ça veut dire finalement le hasard. Mazal, ça veut dire la constellation très précise qui gouverne de façon précise tel comportement précis. Alors, la formule de la Gemara, c'est El Mazal Israël. n'y a pas de madame, il n'y a pas d'internet. Oui, toutes les grandes idolâtries dans l'Antiquité, ça, c'est pourquoi ça s'appelle Ode Kohavi ou Mazarot, ça consistait à adorer le principe divin qui gouvernait telle ou telle manière d'être, partielle d'être, la création. Vous comprenez? Et c'est pourquoi toutes les idolâtries dans l'Antiquité ont commencé par être des astrologies. Si un jour, en attendant, vous prenez les quelques textes de l'Évangile, je vous montrerai même le fils cadet de naissance était une religion astrologique. Et il reste beaucoup de traces dans les surtout catholiques et orthodoxes, que très rares des prêtres chrétiens savent encore du côté derrière. Mais c'est une religion astrologique. Et Alors, la Gemara dit est le mazal d'Israël. Il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de déterminisme qui gouverne Israël. Quand Israël pratique la Torah. Et si Israël pratique la Torah, alors il apparaît une entité récapitulative du peuple juif, du peuple d'Israël, ne pratiquant pas la Torah, quand on dit négocier la Torah, et qui est au niveau des sabbats, bien qu'il ait une place particulière. Alors, ce nom-là, vous le retiendrez, vous le trouverez dans les textes, c'est Michael. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Michael, en hébreu ? Michael. C'est-à-dire, Michael a une seule chose à nous dire, regardez un peu plus haut. Et si vous avez une imagerie, ce que nous n'en avons pas, on représenterait Michael avec le dos levé plus haut. C'est tout ce qu'il a dit, Michael, regardez. Bon, ce qui est frappant, c'est que quand l'Église a prétendu remplacer Israël, au fait qu'il choisit une fille aînée, laquelle ? Qui est la fille aînée de l'Église ? La France, c'est le peuple. Que chez les chrétiens, la fille aînée de l'Église, c'est la France. Et bien, ça veut dire plus des choses. C'est-à-dire entre les juifs et les français. Et bien, ils ont donné comme archange, comme ils disent, le tsar, il traduit archange, Michael, on parle de Saint-Michel, c'est l'archange de la France. C'est pas ça. Michel, c'est Michael. On fait des découvertes. S'il s'appelle Michel. Bon, ça veut dire Michael.
Le doigt.
Je sais pas.
Je vous pose une question. Le principe du tsar, c'est comme on a vu ce matin, celui qui défendait les Égyptiens.
Nahon, ce tsar de l'Égypte.
Est-ce que ça a un rapport avec les Séphirotes?
Non, c'est une autre hiérarchie. Tout à fait. Il y a toute cette hiérarchie, et puis il y a sept sortes de hiérarchies différentes. Puis, bon, ça nous a demandé un jour. Se trouve dans Olam Habina. Mais c'est pas l'esprit. Tout à fait. Bon, alors répondez simplement, sachez qu'il y a une, c'est que. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'angéologie. À Torah en parle, dans ses récits, Tanakh en parle, tout le monde dans la récit que tel roi a rencontré un ange et lui a demandé tu viens pour qui? Pour nous, pour nos amis, par exemple. Des histoires comme ça que Abraham, trois anges sont venus visiter. Alors les anciens génies, ils ont essayé de faire dire ce que ça ne veut pas dire, tout simplement parce qu'ils se rendent compte de cela. La Torah nous parle. D'un stade de l'histoire du monde qui n'est pas notre stade à nous. Toutes ces choses-là sont cachées, radicalement. Et bien attention à ça. Je vous dis souvent sous différentes formes. Et je vous dis souvent précédemment, vous n'avez pas cette image. Si vous avez l'impression de voir des anges, il faut vous faire soigner. C'est bien comme ça. C'est pas vous à dire, si ça y est, je suis devenu heureux, je suis dans le monde de la vie. Attention, c'est très grave. Hein. On a été averti que ça serait caché. Alors, il peut arriver par inadvertance qu'un voile se lève. Et c'est très grave. On n'a pas le droit de vivre dans son état tant qu'on est dans son état. Vous avez compris ce que je veux dire sans avoir dit ce qu'on dit. Méfiez-vous. Si vous en entendez des voix, voir des choses, venez me dire tout de suite que ça fait beaucoup d'adresse. J'ai beaucoup d'adresse. Non, je dis ça, et vraiment, je ne présente pas. Parce que l'expérience me montre plus souvent des gens entendent ça. Ceux qui se disent, oui, ils disent ça pour les autres, mais moi, ils se prennent pour moi, d'autres choses. Il n'y a pas d'exception. Quand vous me dites toujours que le roi, le dieu de l'islam est caché, je n'aurais plus à comprendre.
Mais ça ne veut pas dire que la Oumma, la nation de l'islam, n'est pas la sable. Elle a un nom. Je veux dire, ce sable, ce n'est pas l'islam. Elle a le même sable qu'elle a.
Donc ce n'est pas Ismaël.
Si, si. Ah non, ce n'est pas le nom d'Ismaël. Mais ça, on a déjà un petit peu étudié, parce qu'à la fin des temps, Ismaël se cachait vite, c'est pas Ismaël, c'est pas Ismaël. Et pour le moment, on est dans les convulsions de la fin.
Donc. Et le joueur en coup, alors
on y a un ça nous a fait une petite soquette. Et qu'est-ce que m'a porté au bon, prenez 5 minutes pour la salle un peu. Chaque fois que vous avez le mot V A Elohim dans le verset, V A Elohim, V A Elohim, ça veut dire lui, Akadosh Baruch Hu, et son Bedin. V A Elohim. Je ne sais pas. V A Elohim. Qui se souvient d'une référence de V A Elohim? Ceux qui font la prière, c'est un amour. Non, bien fait. C'est-à-dire la mise à l'épreuve d'Abraham au moment où on appelle la famille Issa, c'est toutes les nations contestent pourquoi tu l'as choisi à lui. Oui, comment elle dit. Alors le Midrash, dans le Midrash Rabbani, Va'elokim, c'est vous ou Beth Dino. C'est-à-dire lui et son tribunal. Ou Bettino. Bettino, c'est le tribunal. Okay. Alors, c'est un tribunal de 70, pas de 3. C'est le tribunal suprême. En réalité, il y en a 72 là-bas, mais là où il y a une question de la porte. Qu'est-ce qu'il a dit?
Elle
m'a
dit 3.
Non.
Elle a dit 3.
Il a donc à 3.
Le minimum d'un tribunal est toujours un chiffre impair. C'est 3. De telle sorte que s'il y a contestation, voilà comment se constitue un tribunal. Chacun des plaideurs choisit un dayan. Et les deux dayanim choisissent un troisième. Ensuite, c'est un tribunal de 7. Ensuite, c'est un tribunal de 21. Ensuite, c'est le Sanhedrin de 70. En réalité, il y en a 72. Non, 70. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne veux pas que vous donniez des choses pas valables. Vous donnez simplement ce principe-là. Et je ne vous en parlerai pas s'il n'y avait pas trace de cela dans le texte de la Bible. Seulement, comme les rabbins ont jugé que ça pouvait être mis entre les mains de tout le monde, des récits, on parle des anges, quand même, vous avez quelques explications. C'est-à-dire que Retenez bien ce principe. Toutes ces hiérarchies dont je vous parle, et vous n'avez aucune idée à quel point c'est infini comme hiérarchie, et tout ça on apprend dans la Kabbalah, et sont réelles de Dieu à l'homme. Mais entre l'homme et Dieu, il n'y a rien. Allez, c'est pas propre. C'est le principe que vous voulez que vous m'aimez. Et il n'y a que les musulmans qui partagent cette croyance avec nous. Tous les autres, ils ont des hiérarchies. Ils sont devant des idoles. Même si ces idoles, c'est des idéaux, c'est la même chose. Internet, niveau. Vous comprenez ce que vous dites ? C'est-à-dire un musulman cachère, c'est-à-dire un vrai musulman. Il y a aussi dans tous les. Même chez les juifs, il y a des superstitions. Mais il peut y avoir des musulmans qui ont des tas de superstitions sur tel ou tel ange, tel ou tel démon, tel ou tel. Mais alors, évacuez tout cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours une infinité de hiérarchies entre le Dieu unique et finalement, en fait, chaque existence dans la réalité. Mais dans l'autre sens, il n'y a rien. Alors, vous comprenez bien que c'est une idée, un principe qui ne fait pas partie de la raison. C'est contradictoire pour la raison. Si c'est réel dans cette sens, c'est pas réel dans ce sens. C'est ça, la mentalité idolâtre, c'est de s'arrêter à un certain niveau d'un intermédiaire. Et alors, l'intermédiaire cache le Dieu unique. Et un grand principe de la Kabbalah, c'est que l'être est caché par ce qui le révèle. Vous comprenez cela? Si quelque chose révèle un être, c'est déjà une image. Cette image cache ce qu'elle révèle. C'est l'ambiguïté de l'image. Donc, l'imagination, c'est quelque chose de très important. Si on n'a pas d'imagination, on n'est pas vivant. C'est vivant. Parce que, par exemple, un phénomène comme la sympathie dépend de l'imagination. Si on n'est pas capable d'imaginer ce que l'autre éprouve, on ne peut pas avoir de sympathie. D'ailleurs, étymologiquement, que ça veut dire sympathie? Sumpatia, ça veut dire pâtir avec. Comment est-ce que vous dites? Au fond, la morale réclame une capacité d'imagination très grande. Mais si on bloque les images au niveau de symboles qui deviennent des idoles, c'est la même. Ça devient des mythes. Des images ont une force affective qui mène le monde, mais qui le mène à la catastrophe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas. Si on s'arrête à une image devient un symbole qui est une dévastateur. Les mythes sont dévastateurs. Et c'est quoi? Il y a une force divine derrière, mais elle a été prise au piège de quelque chose de restreint, de quelque chose de défiguré, de quelque chose de dangereux. Allez, par exemple, on prend un exemple du christianisme, parce que c'est la civilisation qu'on connaît. Et aujourd'hui, au bout de 2000 ans, les chrétiens eux-mêmes ont fini par oublier quelques véhicules de leur mythe. Mais si vous avez l'idée de ce que représente le mythe de la croix comme catastrophe morale, vous seriez effaré à fond. Ça veut dire que le salut du monde dépend de la crucifixion du meilleur de Dieu, c'est-à-dire un juif. Voilà le mythe. Et comme vous savez, nous sommes en ce mythe. La pire des idolâtries, c'est d'avoir pris Israël comme intermédiaire entre Dieu et une figure d'Israël. Enfin, Israël en figure, Israël en mythe. Et lorsque les chrétiens eux-mêmes découvrent cela, ils sont même en fait, ils sont plus obligés. Je referme la parenthèse. Et je tenais bien donc ce principe, c'est que l'être est caché par ce qui le révèle. Vous retrouverez à propos du Sinaï un verset très important. Rappelez-vous que vous n'avez rien vu, vous avez entendu. Zulatit Kol, que l'ordre. Alors là, l'image que vous montrez, c'est l'image que l'on prête à la chimie. Et vous savez qu'il y a des substances à travers lesquelles il y a osmose. Il y a certaines substances où il y a osmose que d'un côté, pas de l'autre. Vous savez ça, si on est dans une solution. Comment vous appelez ça, alcaline, une membrane qui fait osmose. Alors, ce qu'il y a d'un côté de la membrane, pas de l'autre côté, les ions, pas les ions, les ions, I-O-N-S, mais pas de l'autre. Alors, imaginez qu'il y a un voile entre ces mondes d'en haut et nous. Ce qu'il y a plus haut voit ce qu'il y a plus bas, à tous les niveaux, mais ce qu'il y a plus bas ne voit pas dire plus. Vous voyez, osmose d'un côté, mais pas de l'autre. C'est clair? Bon. Et alors,
crois que ça peut nous suffire pour le moment pour comprendre qu'effectivement, les récits bibliques nous racontent un état du monde où ce voile est transparent. Et alors, quand par exemple ce récit, il y a trois anges qui viennent dans la vie d'Abraham, c'est des anges, c'est écrit comme ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est pas que c'est faux, c'est que nous ne sommes pas dans un monde comme ça. C'est clair, juste pour retourner vers un avis qui nous aura le colère. Et ça, c'est une première chose. Et alors, je vais vous montrer dans le mot de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et son nom. Tout ça, c'est des noms différents. Toutes ces hiérarchies, c'est des noms qui désignent la relation souveraine entre le Dieu unique et tel ou tel phénomène, tel ou tel créature. C'est clair. Et faites attention, ce sont des réalités divines, vraiment. Mais l'idolâtrie, ça consiste à les hommes. Vous voyez donc la force de l'expérience religieuse qu'il doit avoir, savoir que c'est réel et ne pas en tenir compte. Et pourquoi c'est grave tout ça? À cause du problème de la moralité ou d'une moralité. Parce que tous ces mythes-là, quand ils sont isolés, sont des images, des symboles qui ont des forces affectives dévastatrices et qui mettent la moralité en danger. La Torah de la morale, c'est la Torah du Dieu unique, l'unité des valeurs. Vous avez compris cette idée? Top. Je vais vous donner un exemple. Certains d'entre vous savent les gens du Constantinois, voilà. Vous savez qu'il y a une rive à Bol, la ville de Bol, Anava. Hein? Je ne sais pas si ça s'appelle Anava. Anava, c'est Anava. Il y a une fois un Sefer Torah qui est arrivé par la mer. C'est ça. Il y a eu un naufrage quelque part, un Sefer Torah est arrivé. Et chaque fois qu'il s'approchait du rivage, du Bol, il y avait des orages, des tremblements de terre, peut-être un peu de choses. Puis les Arabes étaient assez appelés, et finalement ils ont envoyé une barque, parce qu'ils ont vu quelque chose qui s'approchait de ça. Ils ont envoyé une barque, et ils ont vu qu'il y avait une boîte de Sefer Torah. Ils ont fait un juif. Cet atelier-là, tout s'est calmé. On a construit une synagogue spéciale qui s'appelle Adriba, à Bonn. Et où il y avait cet atelier-là. Vous avez entendu parler?
Adriba,
il y en a deux. Okay. Et alors, les Arabes venaient, chaque fois qu'il y avait une prière à faire, ils venaient dans cette synagogue, demander qu'on ouvre cet atelier-là pour faire un prière. Alors, on vérifiait. Si cet arabe était vraiment musulman, c'est-à-dire s'il était monothéiste, s'il était fétichiste, on le laisse pas. Pour vous dire, bon, cet atola est la patrie à Paris, et probablement qu'il sera un jour la patrie à Israël. On est en train de construire une synagogue militaire. Bon, probablement dans la même chose, c'est pas sûr, mais c'est pas mal. Un naufrage. Bon, beaucoup de juifs de Bol d'ailleurs, ont rêvé, quelqu'un se réveillait à eux pour dire c'est moi, d'ailleurs.
Quand vous dites que l'être est caché par ce qui le révèle, c'est valable pour les religions de la Torah?
Absolument. On a compris donc, vraiment la Torah, par la Torah, j'ai parlé de vous. J'avais fait 1000 fois cet exercice, vous aurez le livre, mais c'est que vous lisez. Je vous donne un exemple. La parole révèle la pensée et la cache. Et d'une certaine manière, il y a plus dans la pensée que dans la parole. Donc, Tzimtzoum, la pensée se restreint dans une parole. D'une autre manière, il y a plus dans la parole que dans cette pensée. Mais il n'y a pas de doute que la parole qui révèle la pensée la cache. Sauf les paroles de vérité. C'est les paroles qui dévoilent. Et si on ne sait pas entendre les paroles de vérité, la vérité qu'il y a dans les paroles, la parole qu'on a entendue cache ce qui a voulu être dit. Tout vrai, il n'y a pas de sens. Ce qui révèle l'être le cache. Sauf quand si ce qui révèle est transparent. Donc, alors je vais vous montrer ça. C'est un des grands kabbalistes qui l'a indiqué. C'est un enseignement de l'Église. Le mot de haut, retenez ce que je vais vous apprendre sur le mot de haut. Il est très bien parce que ce que je vais dire, lui, c'est
eux. Mais eux, c'est pas lui. C'est clair? Hachem ou Elohim, jamais vous avez la vie. Lui, c'est aussi les lois de la nature, c'est sa volonté. Mais je ne peux pas dire que les lois de la nature, c'est lui. Si je le vois lui dans les lois de la nature, j'ai restreint, j'ai idolâtre. C'est clair? Alors nous montrons ça comme ça. Ou Ushmo Echad. Qu'est-ce qui apparaît là? Lui et son nom, c'est un. Et c'est ça, où vous voyez bien. Vous, mon petit nom. C'est pas dans le sens inverse. C'est-à-dire que. C'est peut-être une bêtise que j'ai dit, c'est parce que vous avez fait avec moi. Qui peut le plus, peut le moins. On ne peut pas dire que qui peut le moins, peut le plus. Hachem, vous, elle est ok. On va dire que l'Oki est Hachem. Ça, c'est le verbe des panthéistes. Dieu se révèle dans la nature. Et il faut avoir des yeux perçants pour savoir lire. Sinon, on voit que la nature. On ne peut pas dire que la nature, c'est lui. Parce que si la nature, c'est lui, on est perdu. Parce qu'elle nous voit la nature, c'est déterminé dans la nature. Tu veux?